J'ai dû louper un épisode. Les interviews de Pascal Fourier. Aujourd'hui avec Dany Robert Dufour, philosophe, auteur de L'individu qui vient après le libéralisme chez De Noël. Que s'est-il passé ? On sent bien qu'au-delà d'une nouvelle configuration du capitalisme que nous subissons depuis 30 ans, d'autres évolutions sont en cours, qui touchent le cœur même de ce que chacun de nous est et des relations qu'il entretient avec les autres, ou simplement ce qu'on pourrait appeler le collectif. Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? Y a-t-il une cohérence entre cette évolution économique dont nous comprenons de mieux en mieux les contours et ces évolutions sociétales, anthropologiques même, pourrait-on sans doute dire ? J'ai cherché, j'ai lu, et je suis allé voir Dany Robert Dufour, philosophe, auteur de L'individu qui vient après le libéralisme chez De Noël. Il fallait qu'il me remette tout en perspective, à moi l'ignorante en philosophie, celle qui n'a pas seulement loupé un épisode, mais plusieurs épisodes. J'ai d'abord posé une petite question qui partait de ce que je connaissais, le libéralisme économique. Quelle est la pensée sous-jacente au libéralisme économique que nous voyons actuellement et d'où vient-elle ? Voilà la question que je lui ai posée.
Le libéralisme, au sens d'un libéralisme économique, procède d'une idée sur laquelle j'ai essayé de travailler dans un certain nombre de livres précédents, qui donc met en avant l'égoïsme privé des acteurs pour produire donc de la fortune publique. Ça s'est ça exprimé dans une formule, je remonte là au XVIIIe siècle, aux racines du libéralisme, ça s'est exprimé dans une formule qui constitue le cœur de l'anthropologie libérale, les vices privés font la vertu publique, c'est-à-dire la vertu, c'est la fortune. Alors, le libéralisme économique, ça s'explique très bien, la vice privée, c'est donc tout ce qui cherche l'avidité, tout ce qui cherche les satisfactions, les pulsions d'avoir toujours plus, donc l'égoïsme privé des acteurs, qui va permettre, selon le libéralisme économique, de faire de la vertu publique. La vertu publique, c'est la fortune publique. Alors ça vient très directement du cœur de l'anthropologie libérale, qui a été posé au XVIIIe siècle, au tout début du XVIIIe siècle, par Bernard de Mandeville, dont je recommande la lecture d'une petite fable, la fameuse fable des abeilles, que j'ai contribué à sortir de l'oubli, parce que c'est une petite fable à la façon des fables de La Fontaine, et elle contient vraiment le cœur de l'anthropologie libérale. Donc vous avez vu que ceci, vice privé égale vertu publique, c'est ce qui a aussi été développé à outrance au cours de ces 10 ou 15 ou 20 dernières années, puisqu'on a dit l'avidité des banquiers, c'est ce qui va permettre finalement la création d'un argent qui va finalement profiter à tout le monde, puisque le banquier accumule de l'argent, mais ça ruisselle l'argent, puisqu'il va commander des services, il va créer donc un certain nombre, il va utiliser son argent, faire marcher son argent dans la société, etc. Et donc, le cœur de l'ultralibéralisme, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'avidité des banquiers qui permet le développement d'une fortune publique. C'est l'avidité d'un certain nombre de financiers qui, dans les pays, même dans les pays émergents, qui cherchent toujours à faire de bonnes affaires, à gagner plus, qui va tirer le pays pour permettre de développer, par ruissellement de leur argent, ce pays. Le développement des vices privés ne permet pas la fortune publique. On le voit très bien avec la crise de 2008. L'avidité des banquiers a permis tout au plus la création de bulles spéculatives énormes où il a fallu mettre de l'argent public pour venir au secours des banquiers. Donc il n'y a pas d'accroissement direct de la fortune des nations avec cette, idéologie. Il y a un leurre. Il y a un leurre qui est le leurre dans lequel nous fonctionnons depuis à peu près 30 ans. C'est-à-dire depuis que nous sommes dans une époque non plus moderne, j'expliquerai après ce que veut dire moderne et post-moderne, mais depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis à peu près 1980, depuis que nous sommes dans une époque post-moderne. On peut fixer à 1980 tout simplement parce que ça correspond très exactement à la prise du pouvoir dans le monde de Margaret Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis, 1980. Qui ont commencé à démanteler l'État pour dire laissez faire les vices privés, ça va produire de la fortune publique, moins d'État, destruction de toutes les formes qui étaient les formes de solidarité, les formes de redistribution, les formes donc qui permettaient une cohésion sociale. Et donc ça a permis, depuis que ça se développe, depuis 30 ans, le développement monstrueux dans lequel nous sommes maintenant, des inégalités sociales. Pensez que après 30 ans de ce régime, c'est un chiffre que je cite dans mon livre, les 300 personnes les plus riches du monde ont un patrimoine équivalent à celui de 3 milliards, la moitié de l'humanité. Donc 300 égale 3 milliards. Voilà ce que ça a permis. C'est-à-dire que ça a permis, au fond, cette idéologie, ce sophisme, cette fausse équation, vice privé égale vertu publique, ça a permis, non pas la fortune publique, mais la fortune n'est pas publique. C'est la fortune de quelques-uns et l'appauvrissement considérable des autres. Donc, voilà, c'est de ceci maintenant qu'il faudrait sortir. On est coincé, on est assez coincé, parce qu'on dit pour sortir du libéralisme économique, souvent on fait un vote de gauche, et le vote de gauche, finalement, contribue à la diffusion par d'autres moyens de cette idée, par d'autres moyens, c'est-à-dire au niveau culturel, de cette idéologie libérale.
Cette pensée libérale n'est en fait pas seulement une pensée économique, mais c'est une pensée morale visant à libérer l'homme du carcan de la répression des pulsions et de la prévalence de l'autre, Dieu au premier chef, sur soi-même. Or, la gauche contemporaine s'est ressaisie de valeurs anti-autoritaires et hédonistes développées justement par le libéralisme. Et ça me posait problème. C'est pourquoi j'ai posé une petite question hésitante à Dany Robert Dufour, philosophe, auteur de L'homme qui vient après le libéralisme.
Est-ce qu'à gauche, ils se sont rendus compte qu'ils reprenaient à leur compte des valeurs qu'ils pouvaient servir, justement cette idée de changement permanent, de vouloir toujours aller de l'avant, j'allais dire un internationalisme mal compris? Oui. Est-ce qu'ils se sont rendus compte, enfin, ou alors dit autrement, comment est-il possible qu'ils ne se soient pas rendus compte qu'ils reprenaient des valeurs qui étaient celles des libéraux? Ils lisent pas?
Ben écoutez, je pense que ils se sont trouvés, la gauche s'est trouvée, disons, à partir de l'année, la fameuse année 1968, dans une sorte de dilemme. Moi, je vous en parle d'aise, puisque en 1968, j'avais 20 ans. Et donc, j'étais évidemment dans le mouvement de 68, le fameux mouvement de 68, qui n'était pas seulement français, qui était européen, Italie, Allemagne, etc., mais aussi mondial, Mexico, États-Unis, Berkeley, tout ça. Bon. Donc, en 1968, nous avons recherché l'opprimé absolu qui pouvait nous libérer d'un système du capitalisme. Bon. Et l'opprimé absolu, c'était le prolétaire, évidemment, dans la doctrine marxiste. Le prolétaire, nous ne l'avons pas trouvé. Donc il a fallu chercher une figure de remplacement du prolétaire. Puisque, au fond, nous étions toujours dans la pensée marxiste qui disait que, évidemment, c'est le prolétariat, celui qui n'a rien à perdre, qui va, parce qu'il n'a rien, donc il n'a rien à perdre, qui va nous sortir de l'aliénation et de l'exploitation capitaliste. Ce prolétariat, nous ne l'avons pas trouvé. Et donc la gauche, en désespoir de cause, s'est trouvé un certain nombre de figures de remplacement du prolétaire. C'est ça le drame de la gauche, c'est que perdant donc le levier qui allait permettre de tout inverser, c'est-à-dire le prolétariat, elle a substitué à cette figure manquante d'autres figures, le fou, l'artiste déviant, le subversif, le sans-foi ni loi, etc., pour trouver ce point d'appui qui, ou retrouver ce point d'appui qui lui manquait. Ça ne veut pas dire que je condamne ce qui s'est passé en 68, hein. Ça ne veut pas dire du tout que je condamne. Ce que je veux simplement dire, c'est que en 68, nous luttions contre l'ancien capitalisme, qui était oppressif, qui était patriarcal, qui était autoritaire, qui était tout ceci, qui verrouillait les institutions. C'est vrai. Mais on ne s'est pas aperçu que le capitalisme, ce capitalisme, cet ancien capitalisme, ou cette ancienne forme du capitalisme, était déjà à bout de souffle, et que le capitalisme cherchait son renouvellement, et que nous allions, nous, d'un don de la farce, couillon de l'histoire, lui apporter le renouvellement dont il avait besoin, en lui apportant donc ces figures de la subversion générale, du nomade, par exemple la grande figure de Deleuze à l'époque, penseur très très important à cette époque, c'était le nomadisme, le nomade. Quand vous pensez que cette figure du nomade a été reprise comme slogan par que toutes les industries culturelles, toutes les industries même pas simplement culturelles, mais les industries de la communication, on est nomade chez Bouygues quand on a le dernier téléphone portable, etc., il faut être nomade, etc., on apportait donc de l'eau au moulin sans le savoir et sans le vouloir à cette frange du capitalisme qui voulait se renouveler et qui allait devenir un nouveau capitalisme. Ce qu'on appelle donc, vous savez, il y a un ouvrage de Boltanski et Capello qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme » qui analyse bien justement ceci. Et on allait comme ça sans le savoir et sans le vouloir, on s'est fait couillonner par l'histoire, puisqu'on a apporté au capitalisme un certain nombre de figures, de renouvellement, là où le capitalisme était figé. Alors, il était figé pourquoi ? Parce qu'il était figé dans un modèle qui était un modèle issu de la guerre de 1945. Le modèle de la guerre de 1945, c'était le modèle keynésianiste de Keynes, qui préconisait un État redistributeur, qui préconisait un plein emploi, qui préconisait donc une forme d'État un peu gaulliste, si vous voulez, un peu gaullien, quoi. Ça, l'expression en France du keynésianisme, ça a été le gaullisme. Bon, si je parle de ça, c'est pas par hasard, c'est parce que c'était De Gaulle qui était là en 68. Et donc c'est cette forme d'État-là redistributeur qui a été balayée par le nouvel esprit du capitalisme, puisque le nouvel esprit du capitalisme s'est dit « nous pouvons gagner beaucoup plus en supprimant l'État, en se désintéressant des institutions, en favorisant un nomadisme généralisé, une flexibilité généralisée, et ceci peut redynamiser ce capitalisme qui était devenu un peu figé. » Et donc, du coup, toutes nos tendances de gauche se sont retrouvées à notre corps défendant, je dis bien à notre corps défendant, c'est pas un projet de notre part, notre projet était même exactement le contraire. À notre corps défendant, on s'est retrouvés dans nos slogans, dans notre révolution culturelle de 68 a été exploitée par ce nouvel esprit du capitalisme. Et la gauche est restée coincée là-dedans depuis ce temps-là et n'a pas fait l'analyse de cette, disons, chassée croisée, pourtant très connue dans le monde philosophique. Hein, dans le monde philosophique, on appelle ça une ruse de l'histoire. Ruse de l'histoire, ça veut dire que c'est Hegel qui a découvert la ruse de l'histoire. Il dit que un certain nombre d'individus cherchent à réaliser un avènement d'un nouveau monde qui finalement, quand il sera réalisé, s'avérera exactement contraire à celui qu'il voulait. C'est ce qui nous est arrivé en 68. C'est-à-dire, nous avons contribué à la production d'un monde exactement contraire à celui que nous voulions. Et on est toujours pris là-dedans. Donc je suis un des rares, si vous voulez, à faire une analyse à la fois... Je disais, il fallait en 68 se révolter contre l'ancien capitalisme autoritaire. Mais en même temps, il fallait voir venir le nouveau capitalisme libéral, ou libéré, ou anti-autoritaire, qui était en train de se mettre en place. Et ça, je reproche à notre génération de ne l'avoir pas vu, de ne l'avoir pas compris, et de ne l'avoir pas encore bien compris. Et je trouve que c'est une... faire l'économie de ce tournant historique nous empêche de voir là où nous en sommes maintenant.
J'ai dû louper un épisode, toujours en compagnie de Dany Robert Dufour, relancé encore par une petite question bafouillante.
Est-ce qu'on n'a pas cassé des... Alors, j'ai peut-être pas les termes qu'il faut pour le dire. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est cassure anthropologique qu'il faudrait dire. Enfin, j'ai l'impression que les vertus, entre guillemets, qui sont prônées par la gauche libérale, mais aussi par la droite libérale, justement de nomadisme, de déterritorialisation, d'absence de continuité entre les générations, de transmission, etc. Est-ce que ce n'est pas profondément antinomique avec ce qu'est l'homme par essence?
Oui, alors, bah bien sûr, on s'aperçoit que ceci produit beaucoup de souffrances psychiques, beaucoup de déliaisons dans le lien social, et que donc c'est pour ça que c'est dommageable. Sinon, si ça marchait, bah, on pourrait très bien s'arranger avec ça. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que si vous êtes un absolu anti-autoritaire, par exemple, avec vos enfants et que vous leur permettez tout, vous êtes absolument sans savoir dans l'idéologie qui dit « laissez faire tout, les vices privés vont produire de toute façon de la fortune publique ». C'est au niveau, cette fois au niveau familial que ça se passe. Donc, vous les laissez penser qu'ils sont des puissances à eux tout seuls, qu'ils sont autocentrés, qu'ils ne doivent rien à personne, et vous obtenez des petits tyrans sociaux, domestiques, qui n'entendent plus rien, qui n'ont aucun sens de la transmission générationnelle, de ce qu'il fallait qu'ils intègrent de la génération précédente. Intègrent non pas pour tout prendre, c'est même le contraire, il faut qu'ils intègrent pour pouvoir le critiquer. Hein, c'est pas intégrer pour adopter, c'est intégrer pour critiquer, mais... Vous ne pouvez rien critiquer si vous n'intégrez rien de la génération précédente. Or, nous sommes justement à un moment de l'ignorance de cette transmission générationnelle, puisque la génération précédente n'intervient plus pour dire « tu ne dois pas, il ne faut pas », etc. Ce qui entraîne beaucoup de discussions, voire même des conflits. Mais c'est comme ça, c'est le conflit, disons, qui est inhérent à la dimension, la construction d'une subjectivité ou d'une dimension psychique. S'il n'y a même plus de discussion, il n'y a plus que la construction d'un moi-tout, d'un moi dans son illusion de toute puissance. C'est-à-dire, c'est la production d'une espèce de ce que Freud avait repéré quand il parlait de la toute-puissance enfantine. Mais la toute-puissance enfantine, maintenant, elle perdure après l'enfance. C'est ça le problème. Et donc, on fabrique des gens qui sont dans l'illusion de la toute-puissance, qui en fait ne peuvent pas grand-chose. C'est ça qui est tragique. Et ils croient qu'ils peuvent tout. Et ils croient que donc, en faisant ce qu'ils veulent, en n'écoutant rien, en faisant tout ce qui leur passe par la tête, ils vont pouvoir se réaliser. C'est exactement le contraire qui arrive. Ils ne se réalisent pas, ils se détruisent. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, que cette idéologie-là, ce libéralisme-là, n'atteint pas simplement l'économie marchande ou l'économie financière, mais atteint l'économie psychique. Hein ? Et donc, c'est ça la part principale de mon travail, c'est la façon dont cette anthropologie libérale atteint les différentes grandes économies humaines. Et on pourrait aller plus loin, ça atteint l'économie psychique, mais ça atteint l'économie politique aussi. L'idée que, par exemple, il fallait des instances politiques supérieures à la somme des intérêts privés pour que l'intérêt collectif soit défendu. Ça, c'était l'enjeu du politique. Le politique, normalement, c'est celui qui s'interposait entre les intérêts privés en disant « Bon, écoutez, c'est bien, vous bagarrez, vous cherchez le maximum de profit, etc. Mais il y a un intérêt collectif. Par exemple, il y a en ce moment l'intérêt collectif de savoir si l'humanité n'est pas en train de rentrer dans un mur écologique parce que si on continue comme ça, la lutte des intérêts privés entre eux va épuiser complètement le monde, ses équilibres, etc. etc. Donc il faut vraiment qu'un intérêt public, collectif, soit présent pour remettre en place, remettre à leur place les intérêts privés. S'il n'y a plus que des intérêts privés en lutte dans le politique, maintenant le politique c'est ça, ce n'est plus que des intérêts privés en lutte les uns contre les autres. Il n'y a plus la puissance collective, publique, et l'intérêt humain, disons, l'intérêt de la poursuite de l'aventure humaine, qui est maintenant menacée, on le sait très bien, d'ici 20, 30 ou 40 ans, les pics pétroliers, les pollutions multiples et diverses, déjà commencent à se manifester par quantité de symptômes dans notre monde, vont atteindre des seuils tels que c'est nous qui serons menacés. C'est c'est l'humanité qui sera menacée. Donc, ça, c'est le politique, ça sert à prévoir en fonction de l'intérêt collectif. Il n'y a plus de politique. Maintenant, le politique sert à accompagner le mouvement économique pour qu'il y ait plus de développement, pour qu'il y ait un point de plus de PIB, pour qu'on vende des rafales à l'Inde. Le président de la République sera le VRP de l'usine Dassault, etc., etc. Il n'y a plus de politique qui pense donc à l'intérêt collectif. Donc vous voyez qu'au total, ça fait quand même plusieurs grandes économies humaines qui sont atteintes par, disons, le déploiement, la mise au premier plan de l'économie marchande dans tous les domaines. L'économie marchande et son développement financier à l'heure actuelle. L'économie marchande, bon, moi, j'ai rien contre l'économie marchande, il faut bien qu'on échange les biens, les marchés ont toujours existé, que ceux qui produisent cela le vendent à ceux qui n'en ont pas, donc ça c'est très bien. Mais l'économie financière est ce qui a fait de tout une marchandise. C'est-à-dire l'argent est devenu une marchandise, ce qui vous sert à acheter une marchandise est devenu une marchandise, et vous pouvez spéculer sur l'argent. Ça a été le tournant, ça, par exemple, juste après 68, d'ailleurs, ça vaut le coup de le noter, de la cession de la référence à l'étalon or par Nixon en 1971. Donc, toutes les monnaies se sont mises à flotter les unes par rapport aux autres. Et vous avez spéculé, vous avez pu spéculer sur ce qui vous aide à acheter de la marchandise. Ce qui vous aide à acheter de la marchandise, l'argent est devenu lui-même une marchandise. Et à partir de là, donc, toute la logique qui est la logique des produits dérivés, ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire les produits financiers qui se sont mis là-dessus, se sont détachés complètement de l'économie réelle. Donc vous voyez que cet tournant fou de l'économie économique, de l'économie marchande, par l'économie financière, a atteint toutes les grandes économies humaines, l'économie psychique, l'économie sociale, l'économie politique. Et donc, nous sommes atteints dans toutes nos grandes économies. Si ça marchait bien, il n'y aurait rien à dire. Mais justement, on voit que ça ne marche pas et on voit qu'on va soi-même vers la destruction de ce qui fait l'humanité de l'homme et on va vers la destruction, peut-être même, de l'humanité dans son milieu naturel. Donc, il y a quelques problèmes.
Et voilà, c'était le premier des trois volets de l'interview de Dany Robert Dufour, philosophe et auteur notamment de L'homme qui vient après le libéralisme, publié chez De Noël et dont je ne peux que vous recommander la lecture. Mais peut-être avez-vous été attentif au fait que Dany Robert Dufour a dit à un moment lors de l'interview qu'il nous expliquerait ce qu'est l'époque moderne et l'époque postmoderne. Eh bien, ce sera l'objet des deux autres volets de son interview. Si on a loupé un épisode, si j'ai loupé un épisode, Dany Robert Dufour nous offrira en cela un cours de rattrapage fulgurant. À bientôt !